إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد لشيخ الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى دي الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم le troisième fondement et la connaissance de votre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le troisième fondement, c'est-à-dire le troisième des trois fondements que le Cheikh rahimahullah ta'ala nous a dit qu'il incombait à tout musulman et à toute musulmane d'apprendre et de connaître. Et comme on l'a vu, ces trois fondements sont la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, la connaissance de la religion de l'islam avec ses preuves et la connaissance de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc on a terminé les questions liées au premier et au deuxième fondement. Nous allons donc commencer ce soir le troisième fondement sur la connaissance du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, qui est ce prophète qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé à l'humanité pour transmettre son message. Car si tu ne connais pas ce prophète, comment peux-tu le suivre? Est-il possible de suivre quelqu'un que tu ne connais pas? Il est donc indispensable pour tout musulman et toute musulmane de connaître le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le Cheikh rahimahullah ta'ala, ici, il nous a résumé quelques points essentiels liés au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que l'on peut résumer en six points. Le premier point concerne son nom et sa filiation. Le deuxième point concerne la descente de la révélation, c'est-à-dire quand est-ce qu'est descendue la révélation, quand est-ce qu'il est devenu prophète et quand est-ce qu'il est devenu messager. Le troisième point qu'il va aborder concerne la nature du prêche du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Mecca, ainsi que sa durée. C'est-à-dire, quel est le message auquel Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné d'inviter les gens. Le quatrième point concerne le voyage nocturne et l'ascension, durant laquelle la prière a été prescrite. Le cinquième point concerne la hijra, l'émigration de la Mecque à Médine. Et enfin, le sixième point, il concerne l'installation du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons à Médine, ainsi que la révélation des autres prescriptions religieuses, et ce jusqu'au parachèvement de la religion et la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ceci sont donc les six points principaux que l'auteur rahimahullah ta'ala va aborder ici. Nous allons essayer de traiter les quatre premiers dans l'assise de ce soir. Donc, comme on a dit, le musulman, il lui est impératif de se connaître ces choses-là, de savoir qui est le messager qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé à l'humanité. Et pour cela, tu as besoin d'étudier ce genre d'épître ou de lire la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam afin que tu saches quelles sont les choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné. Quel est le message auquel il a appelé? Quelles sont les choses qu'il a interdites? Et tout cela dans le but de le prendre pour modèle et de le suivre. En effet, si tu aimes réellement le messager sallallahu alayhi wa sallam, tu dois avoir envie de le connaître, envie de connaître sa description comportementale, sa description physique, quand est-ce qu'il est né, où est-il né, où a-t-il vécu, quand est-il devenu prophète, quel est le message auquel il a appelé, et toutes ces questions dont on va voir un résumé ce soir, Inch'Allah ta'ala. Donc l'auteur, rahimahullah ta'ala, il dit ensuite, « Wa huwa Muhammad ibn Abdillah ibn Abdil Muttalib » ابن هاشم وهاشم من قريش وقريش من العرب والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وله من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة و23 نبيا رسولا. نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر وبلادهم مكة وهاجر إلى المدينة. Donc il dit rahimahullah, il est Muhammad, fils de Abdullah, fils de Abdul Muttalib, fils de Hashim. Et Hashim fait partie de la tribu de Quraysh. Et Quraysh est une tribu arabe. Et les Arabes sont les descendants d'Ismaïl, le fils d'Ibrahim, l'ami privilégié d'Allah, qu'Allah le couvre, ainsi que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, des meilleurs éloges et qu'il les salue. Il a vécu 63 ans, dont 40 ans avant de devenir prophète, et 23 ans en tant que prophète et messager. Il est devenu prophète par la révélation de Iqra, et il est devenu messager par la révélation de la sourate Al-Muddathir. Son pays d'origine et son pays natal est la Mecque, puis il émigra vers Médine. Donc l'auteur, rahimahullah ta'ala, il a commencé par mentionner le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que sa filiation. Donc son nom est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il a d'autres noms, mais le nom le plus connu et le plus courant est Muhammad. Et c'est celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné à plusieurs reprises dans le Coran, comme dans Surat al-Fath au verset 29, lorsqu'il a dit subhanahu wa ta'ala Muhammadun Rasulullah. Muhammad est le messager d'Allah. Et il a également mentionné son nom dans le verset 144 de Surat al-Imran, ainsi que dans le verset 40 de Surat al-Ahzab et dans le verset 2 de la Surat qui porte son nom, la Surat Muhammad. Il fait également partie de ses noms, Ahmed. Et c'est ce nom qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné lorsqu'il a évoqué l'annonce faite par le Messie Isa ibn Maryam alayhi salam à sa communauté lorsqu'il leur a annoncé la venue de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala a dit au verset 6 de Surat As-Saff: وَإِذْ قَالَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدَ. Et lorsque Isa, fils de Maryam, dit: Ô enfant d'Israël, je suis certes le messager d'Allah envoyé vers vous. Je suis venu pour confirmer ce que j'ai entre mes mains de la Torah et pour vous annoncer la venue d'un messager qui viendra après moi, dont le nom est Ahmed. Donc c'est également un des noms du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il s'appelle donc Muhammad et il s'appelle Ahmed. Et ceci veut dire qu'il est beaucoup loué. C'est-à-dire qu'il a des qualités, des traits de caractère et des nobles comportements qui font qu'il mérite d'être beaucoup loué. Et c'est pour cela qu'il porte ce prénom. Ensuite, le Cheikh rahimahullah a mentionné sa filiation. Et il a dit de Muhammad, fils de Abdullah, c'est-à-dire que son père s'appelait Abdullah, fils de Abdul Muttalib, fils de Hashim. Hashim qui faisait partie de la tribu de Quraysh, qui est la plus noble des tribus arabes qui font partie de la descendance de Ismaïl, le fils d'Ibrahim, alayhi salam. En effet, tous les prophètes venus après Ibrahim, alayhi salam, font partie de sa descendance. Comme par exemple, Moussa, Isa, alayhim as-salam, et tous les autres prophètes qui sont venus après Ibrahim, alayhi salam. Et ils font tous partie de la descendance de Ishaq. Car Ibrahim, alayhi salam, il a eu deux fils, Ishaq et Ismaïl. Donc tous les prophètes après lui font partie de la descendance de Ishaq. À l'exception de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui lui fait partie de la descendance de Ismaïl alayhi salatu wa salam. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est né à Mecca. Sa ville natale est la Mecque. Et quand est-il né? Les savants ont mentionné que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né l'année que l'on appelle l'année de l'éléphant. L'année de l'éléphant. C'est l'année où Abraha, le roi du Yémen, est venu avec un éléphant immense dans le but de détruire la Kaaba. Et le peuple de Quraysh, il n'avait pas la force pour lui faire face. Donc ils se sont enfuis et ils sont montés sur les montagnes de la Mecque. Et ce roi, il s'est approché, donc avec son éléphant immense, et il voulait détruire la Kaaba. Mais lorsqu'il est arrivé à un certain point, à l'approche de Mecca, l'éléphant n'a plus voulu avancer. Et il s'asseyait. À chaque fois qu'il voulait le diriger vers la Mecque, l'éléphant s'asseyait et ne voulait plus avancer. Et dès qu'il le tournait dans une autre direction, l'éléphant se levait et s'empressait de marcher. Il marchait à vive allure. Puis Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé des oiseaux qui portaient chacun des pierres d'argile et il a exterminé ce roi et ce venu avec lui. Et c'est ce qui est mentionné donc dans la sourate Al-Fil, dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a dit selon la traduction des sens rapprochés, rappelant cette histoire au peuple de Quraysh, « N'as-tu pas vu comment ton Seigneur a agi envers les gens de l'éléphant ? N'a-t-il pas rendu leur ruse complètement vaine et envoyé sur eux des oiseaux parvolés qui leur lançaient des pierres d'argile ? Et il les a rendus semblables à une paille mâchée. » Et on rapporte d'ailleurs que chacun des oiseaux portait une pierre dans son bec et une pierre dans ses pattes. Puis il jetait ses pierres et elles tombaient sur la tête de l'homme et ressortaient par derrière lui et leur corps était coupé en deux. Allah subhanahu wa ta'ala les a donc anéantis car ils ont voulu s'en prendre à sa maison sacrée à Mecca. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né durant cette année. Cependant, il n'est rien rapporté d'authentique concernant la date précise de sa naissance. On sait qu'il est né durant le mois de Rabi' al-Awwal, mais rien d'authentique n'est rapporté concernant le jour de sa naissance. Est-ce qu'il est né le 1er, le 5, le 7, le 12 ? Wallahu a'lam. Rien n'est mentionné d'authentique à ce sujet. Et au passage, il est important de savoir qu'il fait partie des innovations en religion de fêter la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce qu'ils appellent donc al-Mawlid, la fête d'al-Mawlid. Ceci est une innovation interdite en religion. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne fêtait pas son anniversaire. Et ses compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, n'ont pas fêté son anniversaire. Et si c'était un bien, si c'était une chose qui rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors ils se seraient empressés de le faire. Mais ils n'ont jamais fait cela. Ni aucun parmi les imams après eux, ni aucun parmi les quatre grands imams, l'imam Abu Hanifa, l'imam Malik, l'imam Shafi'i et l'imam Ahmed, rahimahumullahu ta'ala, aucun parmi eux n'a pratiqué la célébration de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est donc une innovation en religion qui est rejetée et de laquelle le musulman doit s'éloigner. Et la manifestation de l'amour envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle a lieu en suivant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en te soumettant à ses ordres et en délaissant ses interdits. C'est comme ça que tu prouves que tu aimes réellement le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en le suivant, en te soumettant à ses ordres, en délaissant ses interdits et en adorant Allah subhanahu wa ta'ala à la manière qu'il a légiféré sallallahu alayhi wa sallam. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme on a dit, il est né durant cette année, l'année de l'éléphant. Et on rapporte également que lorsqu'il est né, il y a certains signes qui sont apparus, comme une lumière qui a ébloui les palais du Shem. Également, on rapporte que la nuit de sa naissance, sallallahu alayhi wa sallam, les idoles ont tremblé, yani les statues. Et même le palais de Kesra, l'empereur perse de l'époque, a tremblé au point que des tours de son palais se sont écroulées. Et également, on mentionne que le feu des Majus, des adorateurs du feu, il s'est éteint en cette nuit-là. Et les djinns et les shayatins, ils ont été perturbés, ils ont ressenti une frayeur la nuit de la naissance du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et ceux-ci sont donc des signes annonçant sa venue, sallallahu alayhi wa sallam. Il est donc né à Mecca, sallallahu alayhi wa sallam, et son père est mort alors qu'il était encore dans le ventre de sa mère. Sa mère, dont le prénom était Amina. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est donc né orphelin et peu de temps après sa naissance, sa mère est morte également. Il a donc été pris en charge ensuite par son grand-père Abdul Muttalib qui est lui aussi mort et alors il a été pris en charge par son oncle paternel, le frère de son père Abu Talib qui est le père du noble compagnon Ali radiyallahu ta'ala anhu. Il a donc vécu durant 40 années sallallahu alayhi wa sallam avant la prophétie. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il était connu au sein de la tribu de Quraysh comme quelqu'un digne de confiance, comme quelqu'un de généreux, comme quelqu'un de véridique. Et en plus de cela, il était connu de lui qu'il n'adorait pas les statues. Il était loin de toute chose dépravée, de tout mauvais comportement. Il ne consommait pas d'alcool et il ne faisait rien parmi les mauvais actes qu'accomplissaient les gens de la période pré-islamique, sallallahu alayhi wa sallam. Il sortait vers la grotte de Hira et il vouait dans cette grotte l'adoration à Allah, subhanahu wa ta'ala, selon la religion de son père, Ibrahim, alayhi salam, en vouant un culte exclusif à Allah, subhanahu wa ta'ala. Puis lorsqu'il atteint l'âge de 40 ans, la révélation est descendue sur lui. Jibril, alayhi salam, est venu à lui alors qu'il se trouvait dans la grotte. Et il lui a dit « Iqra ». Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit « Je ne sais pas lire, je ne suis pas un lecteur. » C'est-à-dire, je n'ai pas la connaissance de la lecture. Jibril, alayhi salam, il l'a alors serré fort, puis il l'a lâché. Et il lui a dit « Iqra ». Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a répété encore « Je ne sais pas lire ». Il l'a pris une deuxième fois. Il l'a serré fort et il l'a lâché. Et il lui a dit « Iqra ». Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a encore dit « Je ne sais pas lire ». Alors, Jibril, alayhi salam, il lui a alors dit « Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaq al-insana min alaq ». Il lui a révélé les premiers versets de la sourate Al-Alaq. « Lis au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'une adhérence ». C'est donc par ce verset que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est devenu prophète. Il s'est ensuite dépêché de se rendre chez lui. Il était effrayé, car il venait de vivre une chose qu'il ne connaissait pas. Il était donc perturbé. Il s'est rendu auprès de son épouse Khadija radiyallahu ta'ala anha, qui l'a recouverte et qui l'a vue dans cet état et qui lui a dit « Par Allah, Allah ne t'avilira jamais. Tu entretiens le lien de parenté. Tu honores l'invité. » Puis elle l'a emmené chez son cousin, Waraqa ibn Nawfal, qui était un homme qui avait la science des livres précédents, la Torah et l'Évangile. Et il adorait Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé Waraqa de cela, Waraqa a alors dit « Ceci est un namous, c'est-à-dire Jibril alayhi salam. Ceci est un namous, celui qui descendait sur Moussa alayhi salam. » Donc, Waraqa, il a tout de suite su que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait reçu une révélation de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'auteur nous a ensuite dit qu'il est devenu messager par la révélation d'Al-Muddathir, c'est-à-dire la sourate Al-Muddathir. Où Allah subhanahu wa ta'ala dit « Ya ayyuhal muddathir, kum fa'andhir. » Ô toi, le recouvert d'un manteau, lève-toi et avertis. C'est donc par ce verset que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est devenu messager. Il est devenu prophète par la révélation de Iqra et il est devenu messager par la révélation d'Al-Muddathir. Et les savants ont mentionné que la différence entre le prophète et le messager, c'est que le prophète, il reçoit la révélation, mais il n'est pas ordonné de la transmettre. Alors que le messager, il reçoit la révélation et Allah lui ordonne de la transmettre, comme dans ce verset. « Kum fa'andhir, lève-toi et avertis. » Également, ils ont mentionné qu'un messager, il reçoit une législation ainsi qu'un livre. Alors que le prophète, il est envoyé avec la législation du messager qui l'a précédé. Comme les prophètes des enfants d'Israël qu'il y a eu entre Moussa et Issa. Après Moussa, alayhi salam, il y a eu plusieurs prophètes. Et ils sont venus avec la législation de Moussa, alayhi salam. Ceci est une parole des gens de science au sujet de la différence entre le prophète et le messager, à savoir qu'il y a différents avis à ce sujet et tous sont sujets à discussion. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a dit « Ba'athahu Allah bin nidharati ani shirk wa yadu'u ila at-tawhid. Wa ad-dalil qawluhu ta'ala ya ayyuhal muddathir kum fa'andhir wa rabbaka fakabbir. وثيابك فطهر والرجز فهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. Il a ensuite dit, rahimahullah, Allah l'a envoyé pour avertir contre le polythéisme et appeler les gens au tawhid. appeler les gens au monothéisme. Et la preuve à ce sujet, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, selon la traduction des sens rapprochés, « Ô toi, le recouvert d'un manteau, lève-toi et avertis, et de ton Seigneur célèbre la grandeur, et tes vêtements purifie-les, et de tout péché écarte-toi, et ne donne pas dans le but de recevoir davantage, et pour ton Seigneur, endure. » Ceci est donc le prêche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala l'a envoyé pourquoi? Quelle est la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Quel est le message qu'il est venu transmettre à l'humanité? Il est venu les avertir et les prévenir contre le polythéisme, contre le shirk. Et il est venu les inviter à vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala, en adorant qu'Allah et en adorant nul autre que lui. Et c'est ce chemin que doivent suivre les prêcheurs à Allah subhanahu wa ta'ala. Dans leur prêche, ils doivent se concentrer sur la mise en garde contre le shirk, la mise en garde contre le polythéisme et appeler les gens au tawhid, appeler les gens à vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce, avant toute chose. Et s'ils ne commencent pas par cela, alors ils ne suivent pas la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans leur prêche. Celui qui ne commence pas son prêche par la mise en garde contre le shirk et l'appel au tawhid, alors il ne suit pas la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la da'wah. Il est donc indispensable, avant toute chose, de commencer par appeler les gens au tawhid et les mettre en garde contre le shirk. Après cela, une fois que cela est établi, une fois que cela est accepté par les gens, une fois qu'ils ont compris cela, alors tu passes à la suite. Car aucune chose, aucune de leurs œuvres ne pourront être valides s'ils ne vouent pas un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala. Si les gens délaissent l'ensemble des péchés, qu'ils délaissent la consommation de l'alcool, qu'ils délaissent le meurtre, qu'ils délaissent le vol et tout autre parmi les grands péchés, mais qu'ils donnent des associés à Allah subhanahu wa ta'ala, alors ceci ne le sera d'aucune utilité. De la même manière, si une personne se pare des plus nobles comportements, comme la véracité dans les propos, la générosité, elle fait beaucoup d'aumônes, et même si elle fait des prières, qu'elle jeûne, qu'elle fait le pèlerinage, mais qu'elle donne des associés à Allah subhanahu wa ta'ala, alors toutes ses œuvres seront vaines et rien de cela ne lui sera profitable. Alors que celui qui a délaissé le shirk, qui délaisse le polythéisme et qui voue un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala, qui ne prie que pour Allah subhanahu wa ta'ala, qui n'invoque qu'Allah subhanahu wa ta'ala, qui ne donne des aumônes qu'en recherchant le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala, et à côté de cela, il accomplit certains grands péchés. Alors on espère pour lui qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne. Et si Allah le châtie, il ne le châtiera qu'à hauteur de son péché. Mais sa destination finale, cela sera le paradis, incha'Allah ta'ala. Car c'est un mouahid, c'est un monothéiste qui voit un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala. Le tawhid, c'est donc l'appel de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est la base, c'est le fondement de toute chose. Et il n'y a pas de salut. La personne ne peut être sauvée si ce n'est par le tawhid et la mise en pratique du tawhid en délaissant le shirk. C'est pour cela qu'il est obligatoire de concentrer le prêche et de concentrer notre appel sur cela et d'y accorder une grande attention et ce constamment. Constamment appeler les gens au tawhid, constamment enseigner aux gens le tawhid, leur expliquer qu'est-ce que le tawhid, qu'est-ce que veut dire le tawhid, qu'est-ce que le shirk. Il est indispensable pour le musulman de connaître cela afin de le réaliser comme il se doit. Car si une personne ne connaît pas les détails à ce sujet, il n'y a pas de doute que si tu demandes à la majorité des gens affiliés à l'islam, est-ce qu'il est permis de donner des associés à Allah ? Sans aucun doute, il te répondra que ceci n'est pas permis. Mais beaucoup d'entre eux ne savent pas ce que veut dire donner des associés à Allah. Il te dit que le shirk est interdit, que le shirk est le plus grave des péchés et que celui qui fait du shirk sera éternellement en enfer. Mais en parallèle de cela, il invoque autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Il accomplit des sacrifices pour les habitants des tombes. Il accomplit des sacrifices pour les sorciers, pour les shayatines ou autre forme de polythéisme majeur. C'est pour cela qu'il est important pour le musulman de commencer comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé, par l'appel au tawhid, appeler les gens à vouer un culte exclusif à Allah et à délaisser l'adoration de tout autre qu'Allah. Et ceci est très important. Et on est beaucoup confronté à cela, notamment lorsque l'on vit dans un pays de mécréance.
avec la grande ferveur qu'ont les gens pour entrer dans la religion de l'islam. Il est important que tu saches que lorsque quelqu'un vient à toi pour te renseigner sur l'islam, tu dois en premier lieu lui parler du message principal de l'islam, des deux attestations de foi. « Ash'hadu an la ilaha illallah »« Wa ash'hadu anna muhammadan rasulullah » Cela ne sert à rien, comme font beaucoup de gens, d'appeler les gens à délaisser, par exemple, la consommation du porc. Ou alors, de jeûner le mois de Ramadan. Malheureusement, ce sont les premières choses auxquelles les gens sont invités lorsqu'ils commencent à s'intéresser à l'islam. On lui dit « Arrête de manger du porc, jeûne le mois de Ramadan ». Le tawhid, qu'est-ce que veut dire « La ilaha illallah » Il ne sait pas. Qu'est-ce que veut dire « Muhammad Rasulullah » Il ne sait pas. Il n'a aucune connaissance à ce sujet. La prière, on n'en parle même pas. Juste, ne mange pas de porc et jeûne le mois de Ramadan. Et c'est comme ça qu'il pense qu'il est entré en islam. Ceci ne lui profite en rien. Ceci ne lui profite en rien tant que tu ne lui auras pas expliqué qu'est-ce que veut dire l'attestation de foi. Quel était le message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour cela qu'il est important de connaître cela, de savoir pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé. Ensuite, le shir, rahimahullah, il a expliqué les versets. Il a dit, rahimahullah, « وَمَعْنَكُمْ فَأَنْذِرْ يُنْذِرُ عَنِ الشِّرْكِ وَيَدْعُوا إِلَى التَّوْحِيدِ » Et le sens de « Lève-toi et avertis », c'est-à-dire « Avertis contre le polythéisme et appelle au tawhid. » وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ » Et de ton Seigneur, célèbre la grandeur, c'est-à-dire célèbre sa grandeur par l'unicité, en lui vouant un culte exclusif. En ne lui donnant aucun associé dans l'adoration. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ Et tes vêtements, purifie-les. Le shir, rahimahullah, expliquait cela en disant « Aïe, tahir a'malaka min al-shirk » C'est-à-dire, purifie tes œuvres du polythéisme. C'est-à-dire, ne donne aucun associé à Allah, subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il a dit « وَالرُّجَزَ فَهْجُرْ الرُّجْزُ الْأَصْنَامْ » وَهَجُرُهَا تَرْكُهَا وَأَهْلِهَا وَالْبَرَاءَةُ مِنْهَا وَأَهْلِهَا Et de tout péché, écarte-toi, il dit, rahimahullah, le péché ici désigne les statues qui étaient adorées en dehors d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et s'écarter d'elles signifie les délaisser et se désavouer d'elles ainsi que de leurs adeptes. Car comme on l'a dit précédemment, lorsqu'on a évoqué le sujet de l'alliance et du désaveu, il ne suffit pas de se désavouer seulement du shirk, mais il est indispensable pour le musulman de se désavouer également des adeptes du shirk, des polythéistes. Ensuite, il a dit, rahimahullah, أخذ على هذا عشر سنين يدعو إلى التوحيد. Il est resté ainsi durant 10 ans à appeler au tawhid, à appeler à l'unicité d'Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, durant les 10 premières années de sa mission, après que Allah subhanahu wa ta'ala lui ait fait la révélation et lui ait ordonné de mettre en garde les gens contre le shirk et d'appeler au tawhid, durant 10 années, son prêche était concentré sur quoi ? Sur l'appel au tawhid. Sur l'appel à vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala et à délaisser toute forme de shirk. Donc, ceci nous montre quoi ? Ceci nous montre l'importance de l'appel au tawhid. Et que le tawhid, comme le disent certains égarés parmi les gens des innovations et des passions, ça ne s'apprend pas en 5 minutes. Quand ils voient les gens de la sunna enseigner sans cesse le tawhid, ils disent « Qu'est-ce qu'ils ont ces gens-là » Toujours le tawhid, c'est bon, on a compris. Allah est unique, on n'adore que Allah, on ne donne aucun associé à Allah. Il suffit de 5 minutes pour comprendre le tawhid. Na'udhu billah. On cherche refuge auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Contre ce genre de paroles, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est resté pendant 10 ans. 10 années, il appelle les gens à vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il les met en garde contre le shirk, contre le polythéisme, pendant 10 ans. Et c'est seulement après 10 années qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a prescrit la prière, comme on va le voir après dans la parole du shaykh, rahimahullah. Ceci nous montre donc que ce genre de paroles sont des paroles très graves. Et que celui qui les prononce, il ne cherche en réalité qu'à écarter les gens de la voie du messager sallallahu alayhi wa sallam. Il faut donc prendre garde à ces individus. Ensuite, il a dit, rahimahullah, « وَبَعْدَ الْعَشْرِ عُرِجَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ وَفُرِدَتْ عَلَيْهِ الصَّلَوَاتُ الْخَمْسِ » Puis après ces 10 années, il fut élevé au ciel et les 5 prières quotidiennes lui furent prescrites. Donc, après 10 ans passés à interdire aux gens le shirk et les appeler à vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala, à la 11e année, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accompli le voyage nocturne. C'est-à-dire qu'il a voyagé du Masjid al-Haram, la mosquée sacrée de la Mecque, jusqu'au Masjid al-Aqsa à Jérusalem. Comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit dans le premier verset de Surat al-Isra, Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan min al-Masjid al-Haram ila al-Masjid al-Aqsa. Gloire à celui qui de nuit fit voyager son serviteur, c'est-à-dire Muhammad, de la mosquée al-Haram, de la mosquée sacrée de la Mecque, à la mosquée al-Aqsa, dont nous avons béni l'alentour. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était en train de dormir et Jibril alayhi salam est venu à lui. Il avait avec lui une monture qu'on appelle al-Buraq, qui était plus petit qu'une mule et un peu plus grand qu'un âne. Et ses pas avaient une portée aussi longue que son regard. Jibril alayhi salam, il l'a donc mis sur cette monture et ils sont partis à Bayt al-Maqdis, au Masjid al-Aqsa. Et ceci fait partie des miracles de la prophétie. Ensuite, après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait rencontré les prophètes à Bayt al-Maqdis, il a été élevé au ciel, accompagné de Jibril alayhi salam. Il est donc parti de Mecca à Bayt al-Maqdis. Puis de Bayt al-Maqdis, il a été élevé au ciel. À chaque ciel, au premier ciel, au deuxième ciel, il voyait différents prophètes qui le saluaient et lui souhaitaient la bienvenue. Ensuite, il est arrivé au ciel le plus haut et il a été jusqu'au Sidratul Muntaha, le Sidr, l'arbre de la limite, qui marque la limite qui ne peut être dépassée. Et c'est alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a parlé directement. Et les 5 prières lui ont été prescrites, les 5 prières quotidiennes. Elles lui ont été prescrites au départ au nombre de 50. C'est-à-dire qu'il y avait 50 prières à accomplir quotidiennement, de jour et de nuit. Mais lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est descendu, il a croisé Moussa alayhi salam. Et Moussa alayhi salam lui a dit d'aller demander à Allah subhanahu wa ta'ala d'alléger cela à sa communauté. Il lui a dit, ta communauté ne supportera pas cela. 50 prières quotidiennes. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam retournait à Allah subhanahu wa ta'ala qui lui diminuait de 10 prières. Puis il retournait vers Moussa. Moussa lui dit, retourne à ton Seigneur et demande-lui d'alléger cela à ta communauté. Puis il est retourné jusqu'à ce qu'elle soit du nombre de 5 prières. Alors Moussa alayhi salam lui a encore dit, retourne voir ton Seigneur et dis-lui d'alléger cela pour ta communauté. Alors Allah subhanahu wa ta'ala a dit, selon la traduction des sens rapprochés, mon obligation est prescrite et j'ai allégé mes serviteurs et je rétribue la bonne action, la hasana, par 10. C'est-à-dire qu'elles sont 5 en nombre de prières, mais elles sont 50 en termes de récompense. On accomplit 5 prières quotidiennes, mais chacune de ces prières vaut 10 prières. Donc, c'est comme si elles étaient 50 prières en termes de récompense dans la balance des bonnes actions. Et on voit ici la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala envers ses serviteurs qui a allégé cette prescription. Et on voit également la bienveillance de Moussa alayhi salam envers la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et le bon conseil qu'il lui a adressé en lui demandant d'aller demander à Allah subhanahu wa ta'ala d'alléger cela à la communauté. Imaginez-vous 50 prières quotidiennes. Elles sont au nombre de 5 et une grande partie des gens qui s'affilient à cette religion ne les accomplissent même pas. Ou ceux qui les accomplissent sont négligents vis-à-vis d'elles. Certains les accomplissent parfois et les délaissent parfois. D'autres les accomplissent, mais pas en leur heure, pas en leur temps légiféré. D'autres les accomplissent, mais ne connaissent pas leurs règles, et ainsi de suite. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner et de nous guider. Donc, le musulman, il doit être conscient de cette grâce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordée, en allégeant cette prescription. Et en plus de cela, de par sa miséricorde, en lui accordant la récompense des 50 prières qui étaient prescrites à l'origine. Elles sont 5 en nombre, mais 50 en termes de récompense. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est redescendu du ciel et il est retourné à Bayt al-Maqdis. Puis, il est retourné à Mecca. Et tous ceux dans la même nuit. Lorsque le matin est venu, il a informé les gens de cela. Alors les croyants, ceci fit augmenter leur foi, car c'était pour eux un signe de plus de la véracité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quant aux mécréants, ce ne fit qu'augmenter leur mal. Ils se sont moqués du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont dit: comment a-t-il pu voyager en une seule nuit jusqu'à Bayt al-Maqdis et revenir, alors qu'eux, ils devaient voyager sur leur monture, un mois pour s'y rendre, un mois pour revenir. Ils ont en réalité en cela une mauvaise opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont comparé leur capacité, la capacité des créatures, à la capacité du Créateur subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il fait ce qu'il veut. Il est capable de toutes choses. Il a donc fait voyager son serviteur et il l'a élevé au ciel. Et ce, pour mettre les gens à l'épreuve. C'était en réalité une épreuve pour les gens. Les mécréants, les polythéistes, cela fit augmenter leur mal et leur révolte et leur dénigrement et leur rabaissement envers le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Quant aux croyants, ceci ne fit qu'augmenter leur foi, car ils ont ainsi eu un signe de plus de la véracité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, l'auteur, il a dit, rahimahullah, wa salla fi Mecca thalath sinin, et il a prié à la Mecque durant 3 ans. C'est-à-dire, après la prescription des prières, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est resté encore durant 3 années à Mecca. Et il accomplissait les 5 prières, mais il les accomplissait seulement en 2 unités, comme le voyageur. C'est-à-dire que les prières de 4 unités, elles étaient accomplies seulement en 2 unités. Ensuite, après l'émigration, elles ont été complétées à 4. C'est-à-dire le Dhor, l'Asr et l'Isha. Elles ont été complétées à 4 et elles sont restées ainsi pour le voyageur. La prière a été prescrite à Mecca et il y a unanimité des gens de science à ce sujet. Ils ont simplement divergé sur la date. Est-ce que c'était 3 ans avant la Hijra? Est-ce que c'était 1 an avant la Hijra? 1 an et demi avant la Hijra? Et l'avis prépondérant est celui que l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionné. C'est-à-dire que c'était 3 ans avant la Hijra. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il est donc resté après cela durant 3 années à Mecca. Et ceci ne veut pas dire qu'il a cessé d'appeler au tawhid. Il continuait d'appeler au message fondamental de l'islam, qui est le fait de vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala et de délaisser l'adoration de tout autre que lui. Mais Allah subhanahu wa ta'ala lui a prescrit la prière. Et ceci nous montre l'importance également de cette prière qui a été prescrite au ciel, qui est la seule adoration qu'Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit au prophète sallallahu alayhi wa sallam de vive voix. Il lui a prescrit au ciel. Il lui a donc prescrit la prière alors qu'il était à Mecca. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, il dit « Wa ba'daha umira bil hijrati ila al-Medina ». Et après cela, l'émigration vers Médine lui fut ordonnée. C'est-à-dire que lorsque les persécutions de Quraysh ont augmenté sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, lorsqu'ils s'opposaient au message de l'islam, qu'ils persécutaient les musulmans en les torturant ou autres, surtout les faibles parmi eux, Allah subhanahu wa ta'ala lui a alors ordonné l'émigration. Et ceci sera le sujet de la prochaine assise, dimanche à 21h, inshallah ta'ala. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa jazakumullahu khayra.